Réaliser que j'étais pas hétéro, ça m'a fait comprendre pourquoi j'arrivais pas à adhérer à ces normes, de me dire, mais en fait, c'est pas juste une question d'orientation sexuelle, c'est aussi une question de, en fait, j'adhère pas au système qu'on a mis en place. Et de ce point de vue-là, je pense que l'évasion est plutôt réussie.
L'évasion, on l'associe souvent au rêve, au voyage ou à un slogan marketing. Pour nous, c'est avant tout un processus d'émancipation. Comment peut-on s'évader d'une institution? S'évader des normes et constructions sociales, de nos croyances ou de nos peurs? Nous avons rencontré des personnes qui ont partagé avec nous leurs expériences d'évasion. Nous, c'est Laure, musicienne et raconteuse d'histoires, Jill, artiste sonore, et le projet Évasion, réseau de création et diffusion de contenus anarchistes et émancipateurs. Bienvenue sur Les Étoffes. Dans cet épisode, nous vous partageons l'histoire de Camille et son chemin pour se libérer des normes liées au genre et à la sexualité.
Moi, à la base, j'avais dit que ça me parlait beaucoup et que j'avais envie de ce thème de l'évasion et que j'avais envie de parler par rapport à ça de ma sexualité ou potentiellement de la sexualité en général. Et en y réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était quand même intéressant de garder ce thème, mais que c'était pas une évasion complètement réussie ou complètement finie. Parce que j'ai réussi à sortir d'un modèle hétéronormé par rapport à mes relations amoureuses et sentimentales et ou sexuelles, mais je suis encore très dedans. Et c'est très compliqué et je m'en rends compte maintenant et enfin depuis un certain moment et c'est compliqué d'un point de vue personnel et individuel de déjà de pas m'en vouloir, de pas réussir à avoir vraiment complètement déconstruit plein de trucs et puis d'être encore un peu empêtré dans certains modèles normés qui me conviennent pas et c'est compliqué de pas le voir comme un échec en fait. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est plutôt pas fini que pas réussi. Mais du coup, quand j'ai dit, ah, j'ai bien envie de parler de ça, pour moi, c'était bon. Puis j'étais là, ah, je suis sortie de toutes ces normes et tout ça, c'est super, je pourrais en parler. Puis en réfléchissant à ce que je voulais dire, je me suis dit, ah, en fait, non, je sais pas, c'est pas fini. Mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a eu, je sais pas, tu sais, dans les films ou dans les séries, on m'a toujours on dit, ah, c'est un peu le turning point. Je pense que j'ai eu ça quand même il y a 3 ans, quand en fait j'ai concrètement commencé à avoir des relations amoureuses qui n'étaient pas hétérosexuelles, pour de vrai, où je me suis rendu compte que ça avait une importance énorme dans ma vie et que ça avait un apport énorme dans ma vie et que c'était pas du tout anecdotique comme je le pensais avant, où j'étais là, oui, en fait, ah oui, si jamais, je crois que je suis pas tellement hétérosexuelle. Et en fait, bah à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis vraiment pas hétérosexuelle. Et du coup, c'était assez crucial de beaucoup plus l'intégrer et c'était assez crucial de beaucoup plus en parler et de lui donner la place qu'il fallait dans ma vie. Moi, je considère que par défaut, on est cisgenre et hétérosexuel. On apprend à être comme ça et puis sans trop de réflexion de notre part, on se comporte un peu comme ça dans notre vie. Moi, ça m'a pris, je pense, bien 25 ans, donc quand même, c'est long, quart du siècle, avant de réaliser qu'en fait, j'étais pas hétéro, et du coup, ça s'est accompagné de toute une réflexion par rapport à mon genre aussi, où en fait, j'ai réalisé que moi, j'étais pas une personne cisgenre. Moi, j'ai relationné et j'ai eu beaucoup de, dans mon adolescence et dans ma jeune vie d'adulte, beaucoup de relations sexuelles avec des hommes cis-hétéros dans une optique de validation. Et puis, mais je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, parce que je me suis rendu compte de ça, mais en fait, en parlant avec ma psy, elle m'a dit, ah, bah, ça ressemble à un mécanisme d'automutilation. En fait, tu n'es pas une personne hétérosexuelle, mais tu t'es forcé à vivre dans l'hétérosexualité et puis à pouvoir à le performer et puis à le mais vraiment du coup de manière assez intense et assez productive et du coup c'est je pense à ce moment où elle m'a dit cette phrase là où je me suis dit ah ouais en fait je vivais tellement mal le truc d'être bloquée en me disant bah en fait je peux relationner amoureusement et sexuellement que avec des hommes 6-7 parce qu'en plus j'avais pas la notion que d'autres hommes pouvaient exister et du coup je pense que j'ai eu la réalisation que vraiment ça me convenait absolument pas et que du coup j'en arrivais à plus ou moins me faire du mal au moment où en fait c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Je l'ai assez mal vécu sur le moment parce que du coup il y avait cette impression presque un peu cliché mais d'avoir gâché ou raté une partie de ce que j'avais vécu et ou même que en fait bah par défaut parce que j'avais pas assez réfléchi ou parce que je me suis pas posé de questions j'ai un peu perdu des années d'expérience alors que en fait si je m'étais posé la question 2 minutes en amont je pense que j'aurais pu peut-être arriver à cette réalisation avant mais je suis pas sûre et puis du coup concrètement en fait après, je sais pas si c'est le bon processus et la bonne démarche, mais moi, je crois que ça a plutôt bien fonctionné dans mon cas. J'ai décidé pendant un petit moment d'arrêter de relationner avec des hommes. Parce que je me suis dit, en plus, j'ai testé pendant un moment, donc, enfin, voilà, on va arrêter un moment pour voir ce que je peux faire avec les autres possibilités que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir avant. Et puis, voilà, concrètement, c'est un peu ce que j'ai fait, en fait. Le résultat, c'est que maintenant, je suis plus au clair sur... je sais pas si je suis plus au clair, en fait, mais... je suis plus au clair sur les gens avec qui j'ai envie de relationner, parce qu'en fait, il y a aussi ça. Moi, j'ai toujours vécu mes relations comme étant quelque chose qui devait se passer. En fait, je dois relationner avec... amoureusement, donc, avec telle personne, parce qu'en fait, bah... Il a dit qu'il était attiré par moi et puis ça a l'air d'être un bon parti. Puis il est sympa et puis ma famille l'aime bien donc voilà quoi. Et puis donc là même sur mes propres envies, mes propres besoins et mes propres désirs, ça a été assez bénéfique parce que je suis beaucoup plus au clair sur ce que je veux ou en tout cas ce que je veux pas. Bah déjà ça, j'ai l'impression que c'est pas mal en fait comme point. Je le dis comme si c'était pas grand chose, mais en fait c'est déjà pas mal. Et puis, ouais, en fait, de me laisser le droit de dire que ça me convient pas. Et puis de dire, bah en fait, ça c'est une relation amoureuse dont j'ai pas envie. Et puis en fait, j'ai le droit. Sur le moment, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit, ah, mais. Franchement, c'est nul. J'étais là, mais moi, c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Et puis, en fait, actuellement, je me laisse du coup la possibilité, mais je le fais toujours pas. Ça change que je suis beaucoup plus confortable et à l'aise dans mes relations, même toutes mes relations, donc que ce soit amicale, amoureuse, sentimentale, même familiale. Et que j'arrive beaucoup plus facilement à dire... En fait, j'arrive beaucoup plus facilement à poser mes limites. Déjà, j'ose poser mes limites et j'arrive beaucoup plus facilement à le faire. Ça débloque la possibilité et le droit de poser les autres. Du coup, c'est quand même... c'est comme je disais, c'est quand même un apport énorme dans ma vie. Parce que ça, c'est pas juste... Ça concerne pas juste ma sexualité ou... Mes relations amoureuses, ça concerne toutes les sphères de ma vie, finalement. Moi, je considère que le système hétéro est un système oppressif, au même titre que plein d'autres systèmes oppressifs. Ce truc de... Déjà, il y a des rôles très genrés au sein d'une relation amoureuse. On met en avant le fait que le couple, c'est un peu le modèle ultime de réussite. Et puis, hiérarchiquement, c'est le truc le plus élevé de la Terre en termes de relations et de ce que ça nous apporte et comment c'est censé nous compléter. Ce qui est quelque chose auquel j'ai jamais réussi à adhérer. Et puis il y a toute cette question justement de la sexualité, où en fait il y a des injonctions très très fortes pour les personnes du coup dans les couples hétéros qui ont le rôle de la femme, que j'ai toujours un petit peu actuellement et qui sont très très difficiles de, dont il est très difficile de se détacher, mais ces injonctions à la sexualité qui doit être régulière, qui doit être très normée aussi en termes de pratique et de qui a du plaisir ou pas et comment on peut avoir du plaisir et très ouais en fait c'est très c'est pas dit officiellement dans un livre ah bah si jamais ça va se passer comme ça mais en fait c'est quand même très très cadré c'est très difficile de s'en détacher parce que c'est très fortement ancré en fait. Du coup, bah, d'un côté, j'ai quand même réussi ce concept un peu d'évasion à en sortir, mais de l'autre, en fait, ça m'impacte toujours actuellement. Et il y a même des choses que je fais toujours et que j'arrive pas, dont j'arrive pas à me détacher. Typiquement, là, j'ai 28 ans. Je suis en relation amoureuse avec quelqu'un avec qui je vis. Et puis, je compte toujours les jours où on fait pas l'amour. Et je me dis, ah là, ça fait un peu long quand même. Faudrait que je fasse un effort. Et je dois me forcer à pas me forcer. Et en plus de ça, c'est une personne qui n'en met pas du tout et qui est même plutôt à l'inverse d'encourager, te dirais, mais tranquille. Mais c'est vraiment quelque chose de, bah, d'interne, quoi. Et c'est encore plus dur à vivre, je crois, parce que c'est vraiment, ça vient de moi. Je pense que sur le thème de la sexualité, on vit quand même dans une société où il y a beaucoup d'injonctions à faire du sexe. Et moi, depuis quelque temps, je me pose la question de si en fait je serais pas sur le spectre de la sexualité. Et c'est très peu, en fait, je trouve très peu d'espace et de gens soutenant là-dessus. Et même où en fait il y a du partage d'expériences ou d'émotions ou de comment on ressent les choses. Et du coup, je pense que le fait d'être aussi peu accompagné là-dessus, ça me permet pas d'avoir assez de recul pour déconstruire certaines normes et puis de réussir à en sortir ou même réussir à être avoir beaucoup plus d'indulgence par rapport à moi puis dire eh ça prend du temps, ça va être compliqué. Donc c'est très culpabilisant. Tandis que sur d'autres thèmes, typiquement bah je fais beaucoup de Je mets beaucoup de parallèles entre ma sexualité et mon genre, mais sur la question de mon genre, j'ai eu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute, j'ai eu beaucoup de lieux où j'ai pu en parler et même essayer de déconstruire et comprendre et pouvoir théoriser comment je me sentais par rapport à ça. Et du coup, ça s'est passé super facilement. Parce que, alors que ça a l'air d'être beaucoup plus gros comme thème et beaucoup plus difficile à gérer, en fait, ça s'est passé de manière très, très naturelle et très facile, contrairement à ce thème-là. C'est aussi un peu personnel, mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire les choses de manière solitaire, parce que j'ai aussi un espèce de constant besoin de validation des autres. Mais aussi, en fait, le pouvoir partager des expériences communes avec d'autres gens, mais même communes sur un tout petit point, pas forcément de manière large, mais ça me permet de me conforter dans le fait que, en fait, j'aurai toujours des gens qui vont m'accompagner, quelle que soit la difficulté du chemin que je fais. Et du coup, pour moi, c'est assez important d'avoir cet accompagnement et j'ai du mal à faire les choses en solitaire. Après, il y a des moments où j'intègre que ça doit plus être un processus interne et puis que je dois construire de mon côté. Mais j'ai quand même besoin d'avoir un accompagnement et puis un soutien, pas forcément permanent, mais je sais qu'il est là en toutes circonstances. Mais ça a été aussi difficile d'intégrer et de verbaliser le fait que, en fait, moi, ça me convient particulièrement d'être accompagnée, parce que ça rentre un peu en contradiction avec cette envie et ce, ce besoin d'indépendance et de dire ah mais en fait je suis quelqu'un d'indépendant, j'arrive à faire les choses seule et tout ça. Puis en fait de dire de l'autre côté bah en fait j'arrive pas tout le temps spécialement. Puis des fois j'ai vraiment besoin qu'on m'accompagne. Mais c'est tout aussi ok finalement. C'est tout bête, hein, mais en fait, je dis beaucoup plus facilement maintenant à mes potes, pour qui je suis très disponible émotionnellement, quand je le suis pas. Je dis, bah là, en fait, non, je t'aime beaucoup, vraiment. Mais là, je suis pas dispo émotionnellement, j'y arrive pas. Et c'est un truc qui a quelques années, impossible. Et puis en fait, du coup, ça va vachement mieux parce qu'on communique, parce que du coup, on arrive à se dire ouvertement que bah notre relation, elle reste super malgré le fait que bah je suis pas tout le temps là pour les autres. Puis que des fois, je suis là pour moi. Puis je pense qu'en fait, c'est vraiment ça, le fait de poser les limites, c'est en fait prendre soin de soi-même, poser ses limites. Et du coup, la première étape, c'était de dire bah en fait. Moi, pendant des années, j'ai vécu dans un système où, dans lequel j'étais pas bien, et puis où je me faisais du mal. Donc là, je vais prendre soin de moi en posant une limite qui va en débloquer d'autres. Et du coup, c'est l'occasion de prendre soin de moi de manière beaucoup plus large. Mais c'est une manière de prendre soin des autres aussi. C'est fatigant d'avoir ces injonctions intégrées et d'avoir ces moments un peu de doute où, bah, comme je disais, des fois je me dis, ah, mais peut-être qu'en fait je suis quand même hétéro, puis que c'est juste moi qui imagine des trucs, alors que ça n'a pas de sens, ça a vraiment aucun sens, mais, mais voilà, c'est quand même là comme réflexion. Et du coup, d'un côté, j'espère, parce que, bah, c'est fatigant, en fait, comme chemin. Mais de l'autre côté, bah, c'est assez bénéfique, et puis c'est assez, enfin, j'apprends plein de choses, et puis aussi sur moi-même, et puis ça a des impacts sur d'autres sphères, et d'autres compréhensions de, d'autres, ouais, de moi-même, en fait, sur d'autres choses, et puis du coup, bah, en vrai, c'est cool d'avoir cette opportunité. Mais des fois, c'est fatigant. Faudrait pouvoir, choisir, quand j'ai assez d'énergie, je peux le faire, puis, mais ça marche pas comme ça. Mais tu vois, parce que, en fait, comparé à quelques années, en fait, si, genre, je discute avec mon moi d'il y a quelques années, jamais j'aurais, il y a genre 5 ans même, pensé que j'en serais à ce stade-là maintenant. Donc finalement, c'est que ça avance. Vouloir atteindre un modèle de dire, ah bah, en fait, je suis sortie de ce système, mais pour en être vraiment complètement sortie, il faut que je ressemble à ça. Ça a pas trop de sens parce que du coup c'est bah tu sors d'un cadre puis tu mets le pied dans un autre. Si je fais de nouveau le parallèle avec mon genre et la manière dont je me perçois par rapport à ça, pourtant il y en a en fait, pourtant il y en a plein de modèles de gens. Bah, en fait j'ai eu un peu ce truc pendant un petit moment de dire ah, en fait pour être queer il faut que je fitte dans des cadres et des lieux et des cercles queer. Et j'ai réussi quand même assez vite à m'en détacher. Et en fait, je considère que, bah après j'ai encore plein d'autres trucs à déconstruire, mais que je considère que c'est un peu plus anecdotique et que mon évasion dans ce cadre-là, elle est ok, elle est finie quoi, parce qu'en fait je suis bien, je suis apaisée, j'arrive à prendre soin de moi, j'arrive à trouver des lieux et des endroits où je me sens à l'aise et je me sens bienvenue, et j'arrive à me protéger des endroits où je le suis pas. Je ressens plus tellement d'injonctions par rapport à mon genre, au rôle que je devrais avoir par rapport à mon genre, et j'ai réussi à m'en détacher assez facilement. Donc, si j'avais voulu parler d'une évasion réussie, j'aurais parlé de mon évasion de genre. Le fait de débloquer toutes ces questions par rapport à ma sexualité ont débloqué toutes ces questions par rapport à mon genre, donc c'est venu par après. Et grâce au fait que je me suis dit, bah, en fait, il faut que je sorte de ce système hétéro, je me suis dit, ah, mais plus que ça, il faut que je sorte du système cis-hétéro. Mais ça s'est fait beaucoup plus facilement. Mais potentiellement aussi parce que en amont, il y avait eu un questionnement sur la sexualité qui a permis de débloquer plus facilement les questionnements sur mon genre. Tout ça, ça a beaucoup influencé mes comment je peux appeler ça, ma révolution politique interne, mais comment je veux me placer par rapport aux gens, en fait, c'est beaucoup des relations interpersonnelles, mais de bah, comment je me positionne politiquement, ce en quoi je crois, quel est mon système de valeurs, quelles sont les idéologies auxquelles j'adhère ou pas. Et puis, tout ça a été extrêmement influencé par ces questions et ces déblocages de sexualité, d'identité de genre. J'aurais pas les positionnements que j'ai maintenant si j'avais pas réussi à faire ce travail de déconstruction et d'évasion en amont, quoi. Bah, en fait, tout mon travail militant, qui du coup consiste quand même principalement à permettre à tout le monde d'accéder à l'émancipation. Du coup, ça reflète quand même pas mal ça, et j'ai une activité qui est quand même, enfin, une activité militante qui est quand même assez intense, qui s'intensifie selon les périodes, mais c'est quelque chose qui m'anime assez quotidiennement, en fait. Mais ouais, c'est comme on disait, en fait, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres.
Vous venez d'écouter un épisode des Étoffes, un podcast réalisé par Laure Bétrice, Jill et le projet Évasion. Musique, Horizon Liquide. Retrouvez les autres épisodes sur les principales plateformes de podcast et sur www.lesetoffes.org. Et si vous aussi, vous souhaitez nous raconter vos histoires d'évasion, écrivez-nous à radioévasion@riseup.net.